L'espoir et la culture fait vivre. Philippe Ariagno, rentrée 2021, théâtre La Passerelle. Au-delà de la frustration cumulée depuis près de 8 mois, la colère monte dans les milieux culturels avec le nouveau report de la date d'ouverture des théâtres, toujours incertaine à ce jour. Le stop and go continue, l'impossibilité d'anticiper nous sape le moral, vous déstabilise sans aucun doute et l'inquiétude persiste. Après des mois d'adaptation et du respect à la lettre des contraintes sanitaires ou autres couvre-feu pour nous permettre de vous retrouver, l'incompréhension reste totale avec elle, cette aberration particulièrement intolérable que l'art et la culture soient relégués dans un paquet discutable de choses non essentielles à nos vies. L'ensemble du monde de la culture se serre les coudes et se mobilise donc à travers un référé liberté déposé ces derniers jours devant le Conseil d'État qui met en évidence l'iniquité de l'ouverture pour les uns et la fermeture pour les autres. Les pressions s'aiguisent, notamment pour l'annonce d'une réouverture ferme et définitive de nos lieux, le plus tôt possible. À la revoyure, nous reste en travers de la gorge. Nous ne sommes pas hors du monde et indifférents à l'impact désastreux de ce virus. Mais nous sommes à minima perplexes sur la société qu'on nous propose et le mépris de ce qui nous semble faire sens dans nos vies. Nous rassemble, nous enrichit, développe nos esprits critiques, affine notre perception de la réalité d'un monde compliqué. C'est sûr, le spectacle vivant nous rend plus vivants. Le partage de la beauté et de la force de la création contribue à dessiner les contours de notre humanité. Il est temps plus que jamais de le réaffirmer. Tels sont les mots de Philippe Ariagno, directeur du théâtre Gapensée. Dans cet entretien avec Fréquence Mistral Gap, il évoque justement cet édito d'il y a quelques semaines, l'incertitude mais aussi l'espoir d'un retour à la normale d'un milieu culturel qui souffre, comme d'autres secteurs, et des émissions spéciales qui auront lieu concernant les prochaines intimités artistiques sur les ondes des radios partenaires. Et aujourd'hui, nous sommes en présence de Philippe Ariagno, directeur du théâtre La Passerelle, et les interviews depuis des mois se succèdent et se ressemblent assez souvent, malheureusement, hein, depuis cette crise sanitaire. Et là, donc, on va forcément se souhaiter les bons vœux, les vœux justement d'un retour à la normale au niveau culturel. Et c'est ce qui amène Philippe sur nos ondes, qui a signé un édito il y a quelques jours de cela, un peu avant les fête de Noël, un édito qui dit dans les lignes « Cette aberration particulièrement intolérable que l'art et la culture soient relégués dans un paquet discutable de choses non essentielles à nos vies ». Donc Philippe, vous pouvez vous exprimer un peu sur cette frustration et cet édito intitulé « Marre, mais marre ». Bonjour Philippe.
Bonjour Vincent, oui, merci. Oui, c'est vrai que les interviews se ressemblent depuis quelques mois, je crois que c'est au rythme des stop and go que nous propose le gouvernement, on va dire de perspective de rouvrir, puis non, puis oui, puis non. Après, je leur jette pas la pierre, c'est une situation extrêmement difficile à gérer. Je pense que la seule chose qui a motivé cet édito, c'est que finalement, ce marre, mais marre, parce qu'effectivement, le 15 décembre, on y croyait, hein, vraiment. Il a suffi de quelques jours d'augmentation des cas pour se dire, pour mettre tout à plat à nouveau. Je pense que la colère, finalement, parce que bon, on n'est pas hors du monde, donc on pouvait attendre, on patiente comme tout le monde, il y a des activités qui sont durement touchées aussi, donc il faut pas non plus ne voir que midi devant sa porte, mais c'est vrai que c'est parti du fait quand même que d'être classifié dans les choses non essentielles, c'est incompréhensible d'entendre ça, et plus l'interdiction d'ouvrir les théâtres demeure, plus ça devient quelque chose qui ressort et qui fait mal, qui nous meurtrit, qui meurtrit les artistes, qui meurtrit les organisateurs et les directeurs de théâtre, on ne peut pas être d'accord avec une société qui nous proposerait que finalement, s'il n'y avait pas de culture, c'est pas essentiel, on peut faire sans. De ce côté-là, on n'a qu'à dire, ce qui suffit, les besoins essentiels, c'est manger et boire, donc à un moment donné, et dormir, avoir un toit, voilà. Mais bon, ça va, on va bien au-delà. Et la culture, vous le savez, on le revendique toute l'année, toutes nos saisons, depuis tout le temps. C'est essentiel aux vies, c'est essentiel pour l'enrichissement des gens, pour développer l'esprit critique, pour avoir un œil un peu averti, vigilant sur le monde compliqué qui nous entoure. Voilà, si ça, c'est pas essentiel, et au-delà de ça, se rassembler pour partager des émotions ensemble, si c'est pas fondamental et essentiel, qu'est-ce qu'il est ? On le comprend pas, et c'est vrai que c'est la colère a un petit peu montée en fin d'année, parce que, surtout, vous le savez, Vincent, Il n'y a eu aucun cluster dans les théâtres, les consignes de gestes barrières sont vraiment respectées très strictement, il n'y a pas de rassemblement dans le hall, les gens partent par différentes sorties, évidemment le bar est fermé, bref, les gens sont masqués, le gel est à l'entrée, à la sortie, enfin, c'est un peu, on délégitime finalement des mesures barrières qui sont respectées à la lettre pour ne pas continuer à ne pas ouvrir les théâtres, bon, donc ça fait mal.
Oui, absolument. Qui plus est, au niveau national, hein, plusieurs directrices et directeurs de théâtre soulignent aussi ce fait avec les jauges qui sont respectées. Pourquoi ne pas justement réouvrir les théâtres avec précaution en maintenant ces fameux gestes barrières, alors que par exemple dans les métros, dans les supermarchés, le monde s'agglutine, et qui plus est là avec ce couvre-feu instauré à 18h. Donc là aussi, il y a pas mal de gens qui sont à la même heure en train de faire leurs courses parce qu'ils n'ont pas le choix au niveau de leurs horaires de boulot, par exemple. Donc il y a deux poids deux mesures là-dessus. Et ce que vous disiez, ça rejoint d'ailleurs la newsletter qu'on a reçue à la rédaction de Fréquence Mistral. Qu'est-ce qu'un homme si le bien suprême, l'aubaine de sa vie, est uniquement de dormir et de manger? Une bête, rien de plus. Extrait d'Hamlet de Shakespeare.
Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Hamlet, hein, c'est Shakespeare, voilà. Dans Hamlet. Donc voilà, bah oui, ça nous paraît fondamental. Et puis, vous savez, ces situations-là un peu extrêmes, évidemment, encore une fois, on n'est pas hors du monde avec ce Covid. Est-ce que vous entendez souvent le mot culture dans la bouche des politiques? Pas beaucoup. Et ils ne s'en servent que quand ça les sert, ou quand il y a une aubaine, ou quand il y a quelque chose d'un peu opportun à le faire. Mais à force de dire ça, et à force de dire finalement que c'est pas essentiel, ben... Comment on fait, nous, c'est contredire notre travail qui est d'élargir le plus possible les publics, de nous adresser à des gens qui n'ont pas encore osé ou pu pousser les portes d'un théâtre, parce qu'ils vont y trouver des trésors, c'est des vrais trésors. Être au contact de la création dans tous les domaines du spectacle vivant est une magnifique expérience. Et nous, évidemment, on le répète inlassablement et passionnément. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et puis voilà, le mois de janvier continue, quoi. Donc on ne sait pas quand ça va s'arrêter.
Voilà, vous êtes toujours dans ce point d'interrogation interminable et ô combien lourd, hein, depuis des mois. Au niveau du ministère de la Culture, est-ce que vous avez des relations assez étroites, ou là aussi, là aussi, il y a des points d'interrogation? Vous êtes toujours aussi en attente de choses concrètes, de dates butoirs?
Qui nous a mis un petit peu en rage, c'est cette clause de revoyure 7 janvier. C'est-à-dire qu'en fait, tous les syndicats, hein, des entreprises de spectacle vivant sont montés au créneau, évidemment, fortement. Vous savez qu'il y a eu ce référé en liberté, on va en parler d'ailleurs, parce que ça, c'est intéressant, la réponse du Conseil d'État. Ce qui est dommageable pour nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas anticiper. Ce stop and go fait qu'on n'a pas le temps de s'organiser pour nous dire, bah, si on avait une date un peu lointaine ou semi-lointaine, on pourrait mettre en place des résidences, on pourrait inventer des choses. On l'a fait, d'ailleurs, on y reviendra si vous voulez, mais le fait qu'on, tous les 3 semaines, en gros, ou 15 jours, 3 semaines, hop, on doit revoir notre copie, c'est impossible à gérer. C'est impossible à gérer pour l'équipe de billetterie, vous imaginez bien. Mm-hmm. C'est impossible à préparer au niveau de la communication, c'est impossible de contacter les artistes et d'organiser des résidences. Enfin, ça se fait pas comme ça. Donc ça aussi, il y a un petit côté de mépris de dire, bah, vous verrez bien dans 15 jours. Mais non, on peut pas voir dans 15 jours. Donc en fait, la revendication première, c'était de dire, donnez-nous une date, même si c'est une date qui va pas nous plaire, hein, c'est clair, si on nous dit fin mars ou mi-mars, mais une fois qu'on a donné cette date, cette fois au 15 mars, je sais pas, au 1er mars, on ouvre, point barre, mm-hmm. Et on prend toutes les mesures nécessaires pour protéger les gens, pour protéger l'équipe, on peut le faire, on sait le faire. Donc voilà, maintenant, vous savez qu'il y a eu des rapports scientifiques quand même, qu'il n'y a eu absolument aucun cluster dans les théâtres, aucune propagation du virus, parce que, évidemment, les gestes barrières sont respectés scrupuleusement et strictement. Donc au bout d'un moment, ça suffit, on a envie de dire, bon, allez, il faut qu'on reprenne. Et puis au-delà de ça, au-delà des structures et toute la perte de billetterie que ça engendre, tant qu'on reçoit des subventions, j'allais dire que, ben voilà, on peut continuer à payer les gens, on peut payer les artistes dont les spectacles sont annulés, c'est très bien, mais ça pose un double problème, cette situation. C'est-à-dire que toutes les créations qui étaient visibles cette année en 2021 n'ont pas pu être vues, donc en fait, c'est des spectacles qui vont pas tourner. Et en maintenant, arrivent maintenant les créations qui étaient prévues en 21 et qui sont faites pour 21-22. Mmh. Donc il va y avoir à un moment donné un espèce d'embouteillage de créations et de spectacles. Pour ceux qui n'ont eu aucune visibilité, ça va être très très dur. Et puis pour ceux qui créent là dans les prochaines semaines, il va falloir que ces spectacles soient vus pour qu'ils soient programmés, sinon c'est mort. Un spectacle qui n'est pas vu par des professionnels et des publics, c'est un spectacle qui a à très court terme, donc c'est vraiment très très difficile. Et alors vous avez vu le référé liberté, en tous les cas, la réponse du Conseil d'État est intéressante parce que on peut pas dire que c'est une victoire puisqu'on n'a pas pu rouvrir nos théâtres, mais c'est un peu une victoire à la Pyrrhus puisque le Conseil d'État a souligné que c'était vraiment c'était porter une atteinte grave à la liberté d'expression, à la liberté de création, et qu'en fait, oui, la culture est un droit fondamental, et le Conseil d'État a vraiment insisté là-dessus, en disant au gouvernement, il faut revoir votre copie, maintenant, si vous rouvrez les théâtres, il est hors de question de les refermer à nouveau. Donc il va falloir que ça change un peu, quitte à avoir une date, je vous dis, au début du printemps, pour sauver le peu qui restera de la saison, mais il reste encore des beaux rendez-vous. Nous, on l'espère, en tous les cas, et en tous les cas, ça nous permettra d'être continuer à être solidaires avec les équipes artistiques, avancer des résidences qu'on avait prévues peut-être à l'automne 21 et les mettre à cette période-là. Voilà, c'est participer toujours d'être facilitateur, d'être soutien à la création d'aujourd'hui, qui est notre mission première, comme vous le savez.
En attendant, nous sommes en janvier et forcément toutes les représentations de ce mois ont été annulées. Hamlet, Saint-Félix, Deal, Je brûle d'être toi, Fragment, Je suis la bête. Toutefois, on va maintenir, et c'est votre idée, Philippe, pardon, les résidences et ce qui découle des résidences et des compagnies qui sont au sein même du théâtre La Passerelle avec les intimités artistiques qu'on a déjà mis en place quelques semaines avant les fêtes de Noël. Et on va continuer sous cet aspect-là, radiophoniquement parlant.
Oui, tout à fait. En tous les cas, vous l'avez compris, ces intimités artistiques, c'était à la fois d'offrir des cartes blanches aux artistes dont les spectacles avaient été annulés pour qu'ils viennent quand même à La Passerelle. Et nous avons des impromptus artistiques, j'ai appelé ça un peu des bonus autour d'une création ou d'un spectacle que les gens auraient dû voir, et des choses qu'on n'aurait peut-être pas entendues ou vues, l'inspiration des textes qui ont inspiré le spectacle, des extraits, des choses comme ça. Donc ça, on trouve ça très riche, et les artistes s'y sont prêtés volontiers, évidemment. Mais voilà, c'est beaucoup de choses à mettre en place, et il nous faut un petit peu de temps. Donc on remettra peut-être pas les intimités artistiques... tous les spectacles annulés de janvier, mais on va maintenir quand même au moins deux ou trois. Il y a celle de la galerie, puisque nous avons fait le choix de quand même monter la prochaine exposition autour du prix Levallois, avec ce magnifique travail autour de l'autisme de Lionel Justret, et puis une russe qui a travaillé sur la Crimée, et une autre photographe turque, qui sont les trois lauréats, le prix Levallois, la mention spéciale et le prix du jury. On a décidé quand même de monter l'exposition là cette fin de semaine, puisqu'elle sera visible jusqu'au début avril. Donc on a peut-être un peu de chance qu'à un moment donné, les gens puissent profiter de cette magnifique exposition. Donc on fera une intimité artistique avec les commissaires de l'expo qui sont les propriétaires et les directeurs et directrices de la Galerie du Réverbère avec qui nous collaborons, Catherine Derieuse et Jacques Delmas. Et puis il y aura sûrement une intimité artistique avec le photographe lauréat Lionel Justret qui a fait un magnifique travail autour de l'autisme avec une immersion pendant 10 ans pratiquement dans un centre pour autisme qui est un travail absolument d'une force j'allais dire humaine et poétique absolument inouïe. Donc ça, on va maintenir ça. On aura sûrement une intimité artistique avec un des coups de cœur de la saison pour moi, le spectacle à Saint-Félix, Enquête sur un mot français, qui est un spectacle qui parlera énormément aux ruraux que nous sommes dans les Hautes-Alpes, un théâtre magnifique, magnifiquement servi par des interprètes formidables, mais qui est aussi drôle et qui soulève quelques points intéressants de notre ruralité. Et puis on fera encore, je pense, une intimité artistique sur le spectacle « Je suis la bête » de Julie Delisle, parce que ça aussi c'est un des rendez-vous assez crucial pour nous, puisque c'est tout ce rapport à notre animalité perdue, à notre déconnexion avec la nature, et l'histoire de cet enfant sauvage dans lequel on est plongé en immersion sonore, visuelle, absolument magnifique. Donc on veut rester, garder quelques traces et garder ce lien, vous l'avez compris, garder à la fois l'équipe du théâtre en alerte et garder le lien avec les publics d'une manière ou d'une autre, avec des artistes, des paroles d'artistes, qui est notre métier.
Voilà, et on utilise la radio qui est un outil pour cela, et puis parallèlement à cela, sur les réseaux sociaux aussi, du théâtre La Passerelle et le site du théâtre, où on incite les auditeurs et spectateurs de... Oui.
Tout à fait, excusez-moi, mais ce que je voulais vous dire, vous avez raison de souligner sur les radios, parce que Là aussi, dans ces périodes un peu difficiles, nous, on se tourne vers les partenaires que vous êtes, hein, Fréquence Mistral ou d'autres radios qui sont nos partenaires, pour faire ce relais aussi auprès des publics, garder cette parole d'artiste audible, visible, puisqu'il y a aussi des choses filmées et enregistrées. Donc voilà, c'est important et j'en profite pour vraiment vous remercier parce que c'est une façon aussi d'être encore présent sur ce territoire, d'avoir une visibilité et permettre à des gens d'entendre encore des paroles d'artistes, donc c'est fondamental.
C'est normal, c'est notre mission. On va peut-être s'octroyer le fantasme entre guillemets d'un futur un peu plus normal. Philippe, comment vous voyez les semaines et mois à venir? Est-ce que au niveau de l'équipe, déjà on sait très bien que vous êtes toujours motivé, prêt. Est-ce que vous n'avez pas peut-être une petite appréhension du public qui va peut-être avoir peur, cultiver, vous savez, c'est cette peur qu'on a un peu instaurée tout au long de ces mois de par des certains médias qui tournent en boucle concernant ces lieux de culture et peut-être un public un petit peu frileux sur les débuts quant à la reprise, les théâtres vont réouvrir.
Évidemment, c'est une bonne question que vous posez parce que on va dire qu'il y a une version optimiste, hein, qui serait de dire les gens ont besoin de voir du spectacle vivant, on a des abonnés, vous savez que le théâtre La Passerelle remplit à 95% de fréquentation, donc c'est énorme, donc il y a beaucoup de gens qui sont très attachés à la programmation de ce théâtre. Donc on dans la version optimiste, ce serait de dire les gens, dès que ça va rouvrir, et je me permets de souligner que c'est la meilleure solidarité que peuvent avoir les gens. Mmh. Même s'ils ont choisi des spectacles dans la saison qui ont été annulés, il restera quand même quelques spectacles, au moins 7 ou 8, qui sont des petites perles, des grands plateaux magnifiques. Donc l'appel qu'on fait aux gens qui nous écouteraient aujourd'hui, c'est de dire revenez au théâtre, même si vous n'aviez pas choisi d'emblée ce spectacle. Vous allez avoir des surprises, vous allez voir, de toute façon, vous allez vous retrouver confronté à quelque chose de magnifique. Donc on espère, on encourage les gens à revenir, mais dès qu'ils peuvent dans ce théâtre, il y en aura. On n'est pas trop inquiet, on a pas mal de messages d'encouragement et de dire on sera là. Donc on espère évidemment qu'il sera là. Évidemment, la version un peu plus pessimiste, ça serait de dire, et vous l'avez raison de le souligner, Cette crise Covid a engendré une certaine anxiogénité, on va dire, hein, une peur un peu même irrationnelle, on va dire, et donc y a peut-être des gens qui disent tant pis, c'est dommage, je subis ça et je reviendrai à la rentrée, et peut-être qu'ils ne s'abonneront pas comme ils ont l'habitude de s'abonner. On n'espère pas, évidemment, hein, on les encourage à reporter tous les spectacles qui ont été annulés sur d'autres spectacles qui resteront valables ou valides, on va dire, mais on y croit, on a une... Vous savez, le théâtre, c'est pas, vous le savez, c'est une mission publique d'intérêt général. On n'est pas là pour faire, des bénéfices. On est là pour être en équilibre et surtout qu'un maximum de gens puissent voir des spectacles vivants, que ce soit par une politique tarifaire encourageante, par une variété de propositions et un grand panel, on va dire, de saveurs possibles. Je pense que les gens seront là. Mais évidemment, on perd un peu l'habitude, hein, de faire des sorties, très clairement. Donc tous, hein, les uns et les autres, mais il faudra retourner dans les musées, il faudra retourner absolument dans les cinémas, il faudra retourner dans les théâtres. C'est la meilleure garantie et la meilleure solidarité que pourront avoir les gens. D'abord vis-à-vis des artistes, hein, qui ont besoin à nouveau, ils sont morts de faim, hein, ils ont envie de se confronter à des publics, donc il faut être là. Et je pense, pour rien vous cacher, Vincent, en gardant la version optimiste, qu'il va se passer des choses magiques. Vous imaginez bien des gens qui reviendraient après plus de 10 mois dans un théâtre, des artistes qui n'auront pas joué depuis quelques mois et qui vont à nouveau se retrouver sur des planches en face de public. Il va se passer quelque chose, une explosion d'émotions, de bien-être qui va faire du bien à tout le monde, c'est certain.
Et de liberté retrouvée. À propos de liberté, justement.
Liberté, oui, voilà. Quand on regarde, je sais pas vous, Vincent, mais quand on regarde l'actualité autour et qu'on n'a pas cette possibilité, évidemment, d'aller se changer la tête par des propositions artistiques, que ce soit de la danse, de la musique, du théâtre, et qu'on entend des nouvelles du monde. Je pourrais prendre la plus marquante, évidemment, l'agression contre le Capitole. Enfin, c'est des choses extrêmement inquiétantes de nos sociétés vis-à-vis de la démocratie, vis-à-vis plein de choses. Donc, cette image-là de ce monde en marche, qui est quand même pas rigolote, voilà, la création artistique, le geste de créer, vraiment la création est quelque chose de fort qui fait de nous le plus des humains et qui souligne notre humanité. Donc il faut que les gens soient convaincus et de plus en plus que c'est une porte de sortie à cette crise formidable à jouer absolument et on va tous y gagner.
À propos de liberté, Philippe, je me posais la question à titre personnel pour ce couperet, on pourrait dire passeport vert, qui pourrait limiter certaines libertés. C'est-à-dire, si on n'est pas vacciné, peut-être qu'on n'ira pas au théâtre. Alors ça, on en parle. Quel est votre sentiment là-dessus?
Non, mais j'espère qu'on n'arrivera pas à ce recours, là, à faire une catégorie de gens dans notre société qui seraient fait vacciner pour venir au théâtre. Franchement, j'espère qu'on n'arrivera pas là. Cette espèce de... Non, il faut pas qu'il y ait ça. Et puis, de toute façon, ça serait faussement dire qu'on est libre de se faire vacciner ou pas. Et voilà, je pense que c'est une liberté que tout le monde a, en âme et conscience. Moi, j'ai pas d'avis à donner là-dessus. Je sais pas. Moi, personnellement, en tous les cas, s'il faut se faire vacciner, ben, peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas. Il y a des gens qui en sont plus à risque que d'autres. Mais voilà, je pense qu'il faut laisser le choix aux gens. Je pense qu'aussi, le début de cette crise, on responsabilise pas assez les gens. Finalement, on a laissé les théâtres ouverts en étant conscient que nous, les équipes artistes, les équipes dans les théâtres, respectent scrupuleusement les règles, comme je l'ai dit. On protège les gens. D'abord, c'est protéger les publics, mais c'est aussi protéger l'équipe. Vous imaginez bien que je veux pas mettre en danger l'équipe de la passerelle parce que à faire des choses olé olé. Donc, mais de voilà, se dire, ben voilà, moi le risque zéro n'existe pas, mais je pense qu'on est suffisamment protégé dans le théâtre pour faire ce pas-là. J'ai confiance aux organisateurs, et puis c'est de ma responsabilité de citoyen de retrouver le chemin des salles parce que ça fait partie de ma vie et que sans ça, et ben ma vie elle est plus triste. Donc voilà, je pense que dès le départ, on aurait dû jouer ce côté-là. Et puis, de toute façon, vous voyez bien, les salles sont fermées, la propagation du virus continue. Donc, à un moment donné, c'est pas nous qui avons joué ce chose-là. Est-ce que ça aurait été plus ou moins? Ça, personne ne peut le dire. Je pense que, encore une fois, il n'y a eu aucun cluster, aucun risque et aucune contamination majeure dans les théâtres. Il n'y a rien eu, en fait. Hein. Donc voilà, on peut être serein par rapport à ça. Si ça doit encourager les gens de dire ça, revenir dans les théâtres, ben revenez, parce que voilà. On les protégera, il n'y a pas de souci.
Et vous savez, Philippe, que le temps passe vite aussi. Quelle est votre visibilité sur Tous dehors, session 2021?
Bah là, vous mettez des angoisses, Vincent. Évidemment, c'est une question qui tourne dans ma tête depuis un moment déjà, hein, parce qu'il va falloir à un moment donné que je pose une programmation. Généralement, elle se fait courant mars. Est-ce que en mars, je serai plus serein pour poser des spectacles pour la fin du mois de mai, début juin? En me disant, bah, le risque d'annulation une nouvelle fois, qui a été extrêmement traumatisant, puisque nous avons annulé ce festival, vous vous rappelez, deux fois en 2020. Voilà, ça va être des questions qui se posent. Est-ce qu'on va reculer, je sais pas encore, au début juillet ce festival, et en même temps, le faire en mai, début juin, c'est sur ce qu'on appelle les ailes de saison, c'est bien parce que c'est pas la période où il y a tous les festivals. Est-ce que je devrais le reporter d'emblée à la rentrée pour se faire une rentrée en étant plus sûr que ça puisse avoir lieu? Voilà, après c'est une question de disponibilité des équipes artistiques, c'est compliqué, mais évidemment c'est des questions qui vont se mettre en... qui nous hante, en espérant que peut-être que le 20 janvier il y aura une date annoncée de réouverture, je sais pas, février je doute un peu, mais ou juste avant les vacances ou tout début mars, et là on aura peut-être cette visibilité et cette sérénité pour organiser les choses comme on les fait d'habitude. Mais il faut du temps, il faut de l'anticipation, et c'est pas si simple que ça. Et puis m'engager avec des compagnies avec le risque à nouveau d'être d'annulé, est-ce que voilà, il faudra que je continue à les payer? Bon, c'est compliqué, surtout sur un festival qui a des crédits fléchés, c'est particulier, vous le savez, donc je peux pas payer intégralement les compagnies, donc je veux pas les mettre non plus dans des mauvais pas, faire des promesses que je ne pourrais pas tenir, donc ça va être des questions délicates évidemment à trancher.
Oui, on comprend bien, absolument. Philippe Ariagno, ainsi s'achève notre interview, en espérant se revoir vraiment physiquement bientôt et bien sûr pour de très beaux spectacles dans les semaines à venir. Peut-être un dernier mot à rajouter avant de nous quitter.
Oui, on va évidemment croiser les doigts pour que cette ouverture des lieux culturels évidemment arrive au plus vite, hein. On subit ça encore, ben voilà, on essaie d'être réactifs, d'inventer des choses. Et à propos de ça, je voulais vous dire quand même aux auditeurs et auditrices que nous continuons Mon île d'enfance, hein, cette possibilité d'envoyer des documents, des photos, des textes écrits, des enregistrements pour parler de quelque chose qui aurait marqué l'enfance de chacun. Ça nous paraît intéressant, donc ça continue, tant qu'on peut le faire, on le fait, donc que les gens qui nous écoutent n'hésitent pas à nous envoyer leur témoignage d'une saveur d'enfance, d'un personnage, d'une couleur, d'un goût de l'enfance. Ça a bien marché, les gens ont joué le jeu et ont continué à le faire, donc voilà. Croisons les doigts, en tous les cas, Vincent, pour que effectivement on puisse à nouveau recevoir le public et vivre des moments magiques, parce qu'ils vont être magiques quand on reprendra.
Absolument, et en attendant, on se retrouve forcément sur les ondes très prochainement. Merci Philippe Ariagno de vous être arrêté quelques instants au micro de Fréquence Mistral.
Je vous en prie, merci à vous Vincent, et à très bientôt.
À bientôt, courage.
Au revoir, merci, à vous aussi.